Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Ma frère, il y a un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonjour à tous, vous écoutez CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Bienvenue dans cette deuxième émission. Et non Pierre et Rémi, cette fois vous ne vous la jouerez pas en duo, nous sommes trois aujourd'hui. Il est président de l'association KinoZoom, il est aussi et surtout un passionné de cinéma. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Il est notre professionnel de cinéma, il est aussi le directeur du Festival du film de Fontenay-le-Comte. Bonjour Rémi.
Et bonjour Françoise, bonjour Pierre.
Eh bien, quant à moi, c'est Françoise, tout simplement une modeste petite main de l'association KinoZoom, mais je veux bien volontiers prêter ma voix à notre émission. Alors, au sommaire aujourd'hui, les deux films du mois du Ciné-Club, Raging Bull de Martin Scorsese, qui sera suivi du Trésor de la Sierra Madre de John Huston. Nous enchaînerons après ces deux films avec l'actualité de KinoZoom et nous conclurons notre émission par notre quiz habituel. Et nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Raging Bull, film qui va être projeté le vendredi 9 février à 20h30 et lundi 12 février à 18h. Alors Rémi, Raging Bull est un des grands films de Martin Scorsese. Tu nous présentes en quelques mots le réalisateur ?
Eh bien oui, j'y vais Françoise. Donc Martin Scorsese est né en 1942 à New York, de parents d'origine italienne. Et c'est important parce qu'il a grandi dans le quartier de Little Italy à New York, donc quartier et ville qui vont être le théâtre d'un très grand nombre de ses films. Et en cela, on peut vraiment qualifier Scorsese de cinéaste urbain. C'est une des caractéristiques du Nouvel Hollywood.
Alors, le Nouvel Hollywood, peut-être expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce que c'est ?
Oui, en effet, alors c'est assez important, hein, car Scorsese deviendra une véritable tête de proue de ce mouvement qui s'apparente, avec ses spécificités bien sûr, à la Nouvelle Vague française, au néoréalisme italien et à d'autres mouvements similaires. Et donc le Nouvel Hollywood est né à la fin des années 60 et bouleverse le système de production des studios américains à bout de souffle. Après plus de trois décennies régies par le code Hays, alors le code Hays c'est un code qui contraignait fortement les cinéastes, soit dans la mise en scène, dans les thèmes, bon, pas mal ont réussi à déjouer un petit peu cela, mais c'était très contraignant.
Et alors, le Nouvel Hollywood balaye tout ça ?
Complètement, par l'émergence de jeunes réalisateurs qui explosent les codes de mise en scène, abordent des thèmes jusqu'alors tabous, hein, comme la corruption des pouvoirs publics, la sexualité, la violence, le massacre des Indiens, par exemple. Et aussi, ils court-circuitent la mainmise des studios et prennent le pouvoir, en quelque sorte. En somme, ils font du cinéma d'auteur, et parmi eux, Martin Scorsese.
Alors pour autant, Scorsese, et les autres d'ailleurs, ne rejettent pas tout ce qui s'est passé, ce qui s'est fait par le passé, pardon.
Eh bien au contraire, on peut dire qu'ils s'inspirent et déconstruisent les œuvres pour mieux leur rendre hommage. Et Scorsese fait partie de ces cinéastes incroyablement cinéphiles. Il consacrera d'ailleurs des films au milieu du cinéma, je pense à Aviator ou Hugo Cabret. Il écrira aussi pas mal d'ouvrages ou réalisera des documentaires sur le cinéma.
Et alors, comment s'impose-t-il ?
Alors après plusieurs films, dont un premier long, Who's That Knocking at My Door, qui dépeint les aléas affectifs d'un jeune garçon, interprété par Harvey Keitel, son premier acteur fétiche, hein, si on peut dire, et une jeune fille qui cache un terrible secret. Et tout est là un peu dans ce premier film. Hein. Donc on y retrouve les origines du réalisateur, hein, ça se passe dans le quartier de Little Italy à New York. Il y a la place importante de la religion aussi, j'y reviendrai. Son attrait pour la cinéphilie, hein, John Ford est évoqué notamment dans le film. Et c'est un style de mise en scène vif et énergique. Suivront Mean Street, où Alice n'est plus ici. Mais c'est surtout avec son cinquième film, Taxi Driver, qu'il connaîtra la consécration. Un succès commercial, mais aussi et surtout critique.
Et c'est donc avec ce film qu'il remporte la Palme d'Or en 76.
Et ouais, exactement. Et c'est ainsi la poursuite d'une longue collaboration avec Robert De Niro. C'est son quasi alter ego à l'écran avec qui il tournera une dizaine de films.
Donc quels autres grands films par la suite ?
Alors, donc, on a Raging Bull, hein, avec De Niro, j'en parlais à l'instant, mais Pierre nous en reparlera. Et sur la décennie 90, on peut noter Les Affranchis, hein, qui est vraiment un immense film, ou encore Casino, toujours avec De Niro, qui suit la même recette, avec la même réussite. On note entre les deux Le Temps de l'Innocence, un film d'époque, hein, très différent de ce qu'il a pu faire par ailleurs, et qui montre ses capacités à changer de registre.
Et qu'en est-il des années 2000 alors ?
Alors, il multiplie les réussites, hein, Gangs of New York, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, hein, avec un autre acteur fétiche, hein, Leonardo DiCaprio. Il faudra attendre ces dernières années pour le voir s'agir, hein, bon, effet de l'âge peut-être, avec des films moins rythmés, moins trépidants sans doute, hein, comme le The Irishman, hein, qui était sorti directement sur Netflix, ou alors son dernier film, Killers of the Flower Moon.
Et Scorsese et la musique, alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Difficile de faire l'impasse, hein, là-dessus, hein, car outre la présence importante de la musique dans ses fictions, en passant par le classique ou les tubes pop-rock, hein, qui confèrent un style un petit peu jukebox à certains de ses films, il va signer plusieurs films documentaires et des concerts filmés également, donnant à voir les Rolling Stones, Eric Clapton, Bob Dylan. Il produira aussi une très belle série de documentaires consacrés au blues, dont il signera le premier épisode, du Mali au Mississippi.
Et Scorsese, alors, est épris de musique, mais aussi de foi chrétienne.
Eh oui, et c'est là que j'en terminerai. Il faut savoir qu'adolescent, il a même songé à embrasser la carrière de prêtre. Et la religion est très présente dans son cinéma. Très directement, dans La Dernière Tentation du Christ, ou encore son film Silence, et parfois plus subtilement, ou au second plan, comme dans Raging Bull, notamment. Et voici ce qu'il a pu dire à ce sujet. En fait, quand j'étais jeune, je voulais devenir prêtre. Et puis, je me suis rendu compte que ma véritable vocation, c'était le cinéma. Religion et cinéma ne sont pas contradictoires. Le sacré et le profane. S'il y a des différences, il y a aussi des points communs entre une église et une salle de cinéma. Ce sont deux lieux où les gens se rassemblent pour partager la même expérience. Il y a une dimension spirituelle au cinéma, même si elle ne remplace pas la foi. Nombreux sont les films qui captent cette dimension spirituelle, depuis Intolérance de Griffiths, en passant par Les Raisins de la Colère de John Ford, Sur Ford de Hitchcock, jusqu'à 2001 L'Odyssée de l'Espace de Kubrick, et tant d'autres, comme si les films répondaient à une très ancienne quête de l'inconscient collectif. Ils satisfont chez l'homme le besoin de partager une histoire commune. À méditer.
Oui, à méditer. Merci Rémi pour ces quelques mots sur le grand Scorsese. On va maintenant se concentrer sur Raging Bull, qui est l'un des deux films du mois. Et pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose la bande-annonce. C'est parti.
Ah, what do you want? You're not but a fat pig, selfish fool.
Jake, he's embarrassing me with certain people. Listen, why does he have to make it so hard on himself, for Christ's sake?
No matter how big I get, no matter who I fight, no matter what I do, I ain't never gonna fight Joe Louis.
Yeah, that's right. He's a heavyweight, you're a middleweight. We know that.
I ain't never gonna get a chance to fight the best there is. And you know something? I'm better than him.
A man's got a head of a rock.
It's just that when he gets something on his mind, you know, he's got a hard head, he likes to do things his own way. He's gonna do what he wants to do, he wants to make it on his own, you know? He thinks he can make it on his own.
Make it on his own. He thinks he's gonna walk in there and become champion on his own. And he's got no respect for nobody, he doesn't listen to nobody. That's not crazy.
I'm tired of having to turn around and having both of you up my ass all the time.
He's just been a contender too long. Be all right as soon as he gets his shot.
Jake, there's never gonna be a chance. Too many people hate him.
You're gonna get a shot at that title, not without us, he ain't.
Alors, cette bande-annonce nous met déjà dans l'ambiance. Pierre, Raging Bull, de quoi s'agit-il ? Peux-tu nous en dire quelques mots ?
Eh bien, Raging Bull, c'est l'histoire du boxeur Jack LaMotta. Alors, Jack LaMotta, c'est un boxeur des années 40-50, hein, qui est un boxeur poids moyen. Il a évidemment beaucoup combattu et il a été champion du monde. C'est un boxeur américain et on le connaît un petit peu en France parce qu'il a affronté Cerdan. Il a fait un grand match contre Cerdan juste avant la mort de Cerdan. D'ailleurs, c'est évoqué dans le film de Scorsese. Et Cerdan va mourir, comme on le sait, dans un accident d'avion, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir faire la revanche. Enfin voilà, l'histoire de l'affrontement entre les deux va s'arrêter là. Et le film raconte donc l'histoire de Jack LaMotta, c'est-à-dire sa vie très tumultueuse autour de ses combats, sa vie avec sa femme, son frère qui est aussi son entraîneur, ses jalousies, et toujours faisant irruption dans le film, sans arrêt, les combats qui reviennent. Voilà, c'est comme ça rythme le film. Et de sorte que Scorsese construit une espèce de grand film qui montre un peu la grandeur et la décadence du boxeur, d'une architecture assez classique quand on fait comme ça toute l'histoire d'une vie.
Mais on imagine que Raging Bull n'est pas qu'un film sur la grandeur et la décadence d'un personnage, c'est bien plus que cela, non ?
Alors oui, Raging Bull, c'est beaucoup plus qu'une simple biographie. Hein. Un grand réalisateur fait beaucoup plus que simplement raconter les grandes étapes de la vie d'un personnage. Il y a plusieurs éléments qui élèvent Raging Bull très très haut dans le cinéma. Tout d'abord, il y a la manière de filmer de Scorsese qui est absolument virtuose. Il a une manière de mettre en avant des ellipses, de faire des cuts brusques qui emmènent tout à coup le spectateur au cœur des combats. Il joue sur ces répétitions de disputes conjugales, de soupçons et rebelote. Il y a les combats qui reviennent très très violemment et il enchaîne tout ça dans un rythme très prenant. C'est très 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 efficace. Et puis aussi très marquant dans ce film pour Scorsese, il y a un jeu d'image très très fort. Scorsese est un virtuose et là il le montre vraiment. Son générique qui est très fameux, hein, qui est tout en ralenti sur le ring, comme si Jack LaMotta contenait toute sa violence qui allait exploser dans le film après. Il y a aussi par exemple un très grand plan séquence fameux, hein, aussi, où on voit Jack LaMotta qui est dans les coulisses, qui se prépare et puis qui ensuite prend les couloirs qui vont le conduire jusqu'à la grande salle où il y a le ring, et on voit tout le long du plan séquence toute la foule, la rumeur de la foule, la ferveur de la foule qui emplit la salle de cinéma et qui emplit du coup tout Jack LaMotta, et on est vraiment à la place du personnage. Tout ça pour vous dire que la manière dont filme Scorsese, c'est pas seulement pour montrer qu'il est virtuose, c'est pour nous faire ressentir ce que Jack LaMotta ressent. C'est vraiment une utilisation de la grammaire du cinéma pour faire ressentir des émotions. Donc une maîtrise de l'image, une maîtrise du rythme. La musique, on l'a vu dans la bande-annonce, et Rémi nous en a parlé, hein, la musique est toujours très très importante chez Scorsese. Et ça donne des combats incroyables. Il y a beaucoup beaucoup de films de boxe dans l'histoire du cinéma, on va peut-être en reparler après. Et celui-ci, c'est l'un de ceux qui a été le mieux filmé. Il y a une mise en image esthétique du film de boxe, des matchs de boxe, qui est incroyable. Ce jeu de ralenti, il y a des flashs qui crépitent, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, le film est en noir et blanc, donc c'est un choix esthétique très très fort, et il joue beaucoup sur ces alternances de flashs, et puis il y a les fumées dans la salle, et puis il y a la sueur des personnages, c'est quelque chose, une ambiance incroyable, c'est un des films vraiment les plus esthétiques de Scorsese. Donc ça, c'est le premier élément qui est vraiment très particulier. Deuxième élément qui est très célèbre, c'est que Jack LaMotta est interprété par Robert De Niro, et c'est l'une des interprétations les plus marquantes de De Niro. Il était déjà star, hein, au moment où il fait ce film. On est en 1980, De Niro a déjà eu un Oscar avec Le Parrain 2. Mais ici, ce qui est célèbre, c'est qu'il a fait une vraie transformation physique pour le personnage. Il n'a pas hésité à prendre plus de 30 kilos pour le rôle, puisque selon la période de sa vie, Jack LaMotta n'est pas toujours aussi affûté physiquement que du temps où il est boxeur. Et c'est non pas une mode qu'a lancé De Niro, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis cette interprétation. On voit régulièrement des acteurs ou des actrices qui prennent 30 kilos, qui perdent 20 kilos, qui se métamorphisent physiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant à ce point-là. Hein. C'est très nouveau à Hollywood. Et c'est De Niro qui lance ça. Voilà. Donc, cette qualité d'interprétation, les seconds rôles sont remarquables. Il y a Joe Pesci que Scorsese réutilisera plus tard, qui est aussi dans un de ses premiers rôles, qui est très très bon.
Donc la virtuosité de Scorsese tient à la qualité des acteurs, hein. Mais qu'est-ce qui aussi peut rendre Raging Bull unique ?
Alors il y a un troisième élément qui rend le film unique, c'est le personnage de Jack LaMotta. C'est-à-dire pas ce qu'il est en tant que, pas le personnage réel, mais ce qu'il est dans le film, ce personnage de fiction. C'est-à-dire que Jack LaMotta, tel que nous le montre Scorsese, est incapable d'avoir une relation à l'autre qui soit autre que de la violence. Pour lui, tout n'est qu'affrontement. Pas seulement sur le ring, mais tout dans sa vie est un affrontement. Et Scorsese illustre ce rapport à l'autre, justement, en nous faisant entrer violemment dans les combats. Tout d'un coup, on est dans les combats et on en ressort tout d'un coup. Il n'y a pas de transition, comme si c'était une réponse à la vie frustrante de Jack, et tout d'un coup ça explose par le combat. Il faut qu'il cogne, c'est sa réponse. Donc c'est un personnage qui bouillonne et qui part en quart de tour. C'est très intéressant hein, parce que Jack LaMotta en tant que boxeur, là je parle vraiment du boxeur, c'est un boxeur qui esquivait très peu, il y en a qui se font jamais toucher ou très peu, lui il se prenait vraiment des coups violemment, il n'esquivait peu, et ça, ça en fait un thème pour Scorsese qui s'occupe du corps de LaMotta, le corps du boxeur devient un élément central dans le film. Et pas seulement donc, sur le ring avec les coups qu'il donne ou les coups qu'il prend, mais par exemple il y a une obsession du poids, vous savez que chez les boxeurs il y a tout un tas de catégories et un boxeur est sans cesse en train de surveiller son poids pour être à la limite de sa catégorie, et Jack LaMotta est obsédé par ça, il mange tout le temps donc il faut qu'il fasse des régimes et ça, ça l'obsède, et puis en vieillissant il va grossir, donc il y a ce rapport au corps qui est obsédant, il y a son rapport au visage qui est marqué par les coups et il s'en prend et il en donne, il y a vraiment quelque chose qui est très travaillé, c'est un thème pour Scorsese d'utiliser ça chez un boxeur. Et puis ce personnage de LaMotta là, il est très scorsésien en fait. Ce qu'il y a chez Scorsese très souvent dans tous ses films des années 70, 80, 90 encore, c'est que tous ces personnages ont un problème d'énergie. Ils ont trop d'énergie. Ils contiennent une énergie qui bouillonne et qui à un moment donné doit exploser. On parlait tout à l'heure de Taxi Driver. Taxi Driver, c'est la lente déambulation d'un chauffeur de taxi. Là. C'est déjà De Niro dans New York. Et puis il y a une frustration, il y a l'énergie qui monte comme une cocotte minute qui couve. Et à un moment donné, il faut que ça explose. Dans Taxi Driver, ça explose en fin de film, il y a un climax très très violent. Dans Les Affranchis ou dans Casino, il y a des personnages qui eux aussi partent au quart de tour, et alors là, on sort les flingues et ça tire à tout va. Le Loup de Wall Street, qui est un film plus tardif, mais qui est complètement déjanté, il y a une énergie folle dans ce film-là. Le personnage interprété par DiCaprio est complètement en suractivité, il se drogue, ça n'arrête pas, c'est une espèce de délire, l'énergie déborde de partout. Donc il y a toujours un rapport à l'énergie chez Scorsese. Ces personnages ont trop d'énergie. Et ici, Jack LaMotta, son énergie qui bouillonne, elle sort sur le ring. Voilà. Et c'est pour ça que le ring fait irruption comme ça dans le film, ça éclate. Rémi nous l'a dit, les films un peu plus récents, hein, les derniers films en fait de Scorsese, après le Loup de Wall Street, en fait, sont plus apaisés. Alors, c'est peut-être l'âge, effectivement, mais après le Loup de Wall Street, qui était une espèce de délire de punch et d'énergie, son film d'après, c'est Silence, qui veut quand même dire qu'il sait, on se calme, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas un énième film de boxe, hein, Raging Bull. On voit qu'il y a plusieurs éléments qui le rendent pas du tout typique des films de boxe et beaucoup plus typique des films de Scorsese.
Alors, tu parles des films de boxe. Il y a donc tant que cela des films sur la boxe et les boxeurs ?
Alors oui, ça c'est très intéressant. La boxe est le seul sport en fait que c'est vraiment approprié le cinéma. Il y a depuis le cinéma muet jusqu'à très récemment, il y a toujours eu des films de boxe. C'est quelque chose que Hollywood et dans d'autres pays, mais Hollywood a beaucoup filmé parce qu'en fait la boxe c'est une allégorie qui est très pratique pour les metteurs en scène américains. Alors au départ c'était juste l'idée de filmer les matchs eux-mêmes. On pense un des grands matchs de boxe filmés, c'est chez Chaplin, dans Les Lumières de la Ville, où évidemment c'est du burlesque, c'est très très drôle. Là, c'est juste le match qui est filmé. Mais après, tous les films de boxe, ou énormément de films de boxe, servent à montrer que le boxeur, par ses victoires ou par ses défaites, eh bien, il peut prendre une revanche sur la vie, il peut prendre une revanche sur la société. Il n'était rien, et à la force de ses poings, il devient quelqu'un. Et il arrive à gravir comme ça les échelons. Ça rejoint l'imaginaire américain du self-made man. C'est vraiment la gloire à porter des points, quoi. Donc il y a beaucoup de films qui illustrent ça. Certains très connus. Hein. Enfin, Rocky, c'est tout à fait ça. Hein. C'est qui est un remake de Marqué par la haine, qui est aussi tout à fait ça. Comment est-ce qu'un personnage peut comme ça prendre une revanche sur la fatalité ? Ou alors, la boxe peut montrer un écroulement. Quelqu'un qui pense pouvoir s'en sortir et puis qui ne s'en sort pas du tout. C'est l'échec. La boxe montre cet échec. Et là, il est complètement enfermé dans l'échec. La défaite dans le match reflète la défaite dans la vie. C'est très bien filmé dans Fat City de John Huston. Peut-être qu'on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Et donc, il y a la dimension de revanche sur la société. Il y a cette dimension d'échec. Et puis, il y a aussi la valeur morale, puisque très liée à la boxe, il y a toujours la corruption qui traîne et il y a toujours des tentations. Bah, il faut se coucher, il y a des tractations, etc. Et le boxeur, il va se coucher ou il ne va pas se coucher. Là, il y a vraiment aussi des films. Hein, Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, qui est peut-être l'un des plus grands films de boxe, où il y a cette dimension morale, quoi. Le personnage, est-ce que le boxeur va accepter d'être corrompu ou pas. Donc on voit qu'il y a toujours eu, tout le long de l'histoire du cinéma, beaucoup de films de boxe, de très très grands films de boxe, et que c'est un sujet qui est permanent dans le cinéma.
Merci Pierre pour ces éclairages passionnants. Je vous propose de marquer une pause musicale, mais on va rester avec Scorsese, avec le fameux thème de Taxi Driver par Bernard Herrmann, qui signait là d'ailleurs sa dernière partition pour le cinéma, puisqu'il est décédé le soir du dernier enregistrement, et d'ailleurs le film lui est dédié. Voilà. Pierre, tu as cité Fat City de John Huston. Parmi les très grands films de boxe, je crois que la transition est toute trouvée pour aborder le second film du mois. Il s'agit du Trésor de la Sierra Madre de John Huston, donc, qui est projeté le mercredi 21 février à 18h au cinéma Le Renaissance. Alors Rémi, peux-tu nous dire quelques mots sur le réalisateur John Huston ?
Eh bien, tout à fait, Françoise. Donc John Huston est né en 1906 aux États-Unis d'une mère journaliste et d'un père comédien, Walter Huston, que John Huston fera tourner à quelques reprises, notamment dans le Trésor de la Sierra Madre qui va nous intéresser. Alors c'était un peu notre fil conducteur du jour, puisqu'avant de faire carrière dans le cinéma, Houston va quelque temps s'adonner à la boxe, avec un petit succès, puisqu'il remportera un titre dans un championnat amateur. Hein.
Mais de cette incursion, il saura se souvenir, n'est-ce pas ?
Et tout à fait, en réalisant l'un de ses plus grands films, hein, on en parlait tout à l'heure, La Dernière Chance, Fat City en version originale, sorti en 72, où il dépeint l'errance de deux boxeurs, un film de paumé, un motif qui reviendra souvent chez Houston, dans une Amérique paumée, elle aussi.
Alors revenons un peu en arrière.
Alors oui, Houston entre par la porte des studios américains sous le statut de scénariste et de dialoguiste dans les années 30.
Alors avec un certain succès, il faut le dire, non ?
Et oui, complètement, il va signer des scripts, seul ou en collaboration, avec des grands noms, hein, tels que William Wyler, Howard Hawks, Raoul Walsh ou encore Orson Welles.
Et cela va lui donner une certaine légitimité ?
Et c'est certain, et c'est ainsi que les studios Warner, pour qui il écrit, vont lui permettre de réaliser son premier long métrage, Le Faucon Maltais, en 1941.
Ah ça, c'est un coup de maître, non ?
Alors indéniablement, hein, il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Achiel Hammett, qui a imposé les codes du genre film noir des années 40-50.
Alors comment peux-tu définir ce genre, le film noir ?
Alors, ce sont des films policiers, hein, des polars sombres, au relent tragique, avec des personnages désespérés et archétypaux. Hein. On retrouve le détective portant un long imperméable, un chapeau Fedora, un brin cynique, désabusé. On a des bandits cruels, des femmes fatales. Et c'est aussi une esthétique hein, très marquée, avec un noir et blanc très contrasté, des jeux d'ombre et de lumière. Cela se passe souvent la nuit, sous la pluie.
Mmh. Les Américains appellent cela hard-boiled, c'est ça ?
C'est ça, et le Faucon Maltais, c'est aussi la panthéonisation, hein, si je puis dire, d'Humphrey Bogart, qui est presque un archétype du genre à lui seul, tant sa présence est impactante. Bogart qui tournera à plusieurs reprises avec Houston.
Et après cela ?
Alors après ça, Houston est pour le moins un réalisateur prolifique, hein, avec quasiment un film par an jusqu'à la fin de sa carrière. Beaucoup d'adaptations, d'écrivains réputés difficiles à adapter, hein, notamment Melville, Gary, puis plus tard ce sera Lowry ou Joyce.
Et quel film retenir ?
Alors sur la décennie 40, on retiendra un grand film d'aventure en 48, Le Trésor de la Sierra Madre. Hein.
Alors oui, c'est le film justement dont Pierre va nous parler.
C'est ça, et je retiendrai aussi le grand polar Quand la ville dort, sorti en 1950, un film de casse qui aura une très grande influence hein, sur Jean-Pierre Melville notamment, pour ne citer que lui. Ou encore un grand succès avec l'Odyssée de l'African Queen.
Ah oui, c'est le film qui permettra à Bogart de remporter un Oscar.
Exactement, hein. Autre film marquant et célèbre de 1961, Les Désaxés, avec Marilyn Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift, qui a posteriori s'imposera comme le film crépusculaire représentatif de l'Ouest, de la fin du mythe de l'Ouest et de l'âge d'or d'Hollywood.
Oui, alors le mythe du film a sans doute été renforcé par les décès de Clark Gable et surtout la fin tragique de Marilyn Monroe.
Et oui, complètement. Et entre ces grands films, Houston propose des films, dirons-nous, de second rang, hein, parfois franchement décevants, comme Casino Royale, parfois très intéressants, hein, comme Reflet dans un œil d'or. On retiendra sur sa fin de carrière le réjouissant L'homme qui voulut être roi, en 1975 avec Sean Connery et Michael Caine, et puis des films moins percutants, jusqu'au sublime Jean de Dublin, son dernier film, adapté de Joyce, la nouvelle The Dead, plus précisément, en 1987, éblouissant film crépusculaire du vieux maître. Il a alors 80 ans et décède l'année de sortie du film.
Merci Rémi. Alors avant d'enchaîner avec une présentation du film Le Trésor de la Sierra Madre, je vous propose tout simplement d'écouter le thème du film de Max Steiner.
Thank you.
vient d'entendre le thème principal du Trésor de la Sierra Madre. Alors Pierre, de quoi s'agit-il ce film ?
Eh bien, c'est un très grand film d'aventure qui part sur un argument assez classique où on a deux Américains qui sont au Mexique, pauvres et un peu désœuvrés. Là, ils n'ont pas de travail, ils se font un peu arnaquer, ils n'ont rien du tout. Et puis, ils vont parvenir à s'associer avec un troisième qui, lui, est un vieux prospecteur qui connaît tous les trucs. Et puis, à trois, ils vont s'enfoncer dans les montagnes désertiques pour essayer de chercher de l'or. Voilà. Donc, argument classique. L'un des personnages, c'est Humphrey Bogart qui le tient. Donc, c'est la star, évidemment. Et puis, le vieux chercheur d'or, c'est Walter Huston. C'est donc le père de John Huston, comme disait Rémi, hein, qui est donc dirigé par son fils. Alors, le film est très enrichi par la diversité de ces trois personnages, qui sont très différents. Et en effet, avec ces trois personnages, ils montrent trois facettes de la recherche de l'aventure. Le premier personnage, qui s'appelle Dobbs, qui est interprété par Bogart, lui, il est montré comme très pauvre au début du film, et il vise l'appât du gain. Lui, il veut s'enrichir le plus possible, c'est la soif de l'or, de manière très très pure, dans toute sa splendeur. Alors que le vieil homme, le vieux prospecteur, lui, c'est beaucoup plus l'aventure pour l'aventure. Au début de film, quand on le voit au début, il est beaucoup plus ralenti. On n'imagine pas qu'il a beaucoup d'énergie. Et puis quand il commence à parcourir la montagne, là, il se réveille, il donne tout ce qu'il a. On voit que c'est l'aventure pour l'aventure. Et le troisième, Curtin, lui, il est beaucoup plus sobre que Dobbs, qui veut amasser de l'argent. Lui, il veut simplement, en fait, changer de vie. Alors qu'il, jusqu'à présent, il se déplace beaucoup, il erre beaucoup, pauvrement, il voudrait juste pouvoir se fixer, il voudrait juste gagner assez d'argent, d'or, pour établir un ranch, avoir une femme, se poser, quoi. Donc le film brosse trois portraits, trois personnages qui vont donc réagir de manière très différente aux aventures qu'ils vont rencontrer. Et le film devient très vite passionnant, parce que quand on en voit des aventuriers dans le désert ou dans les montagnes perdues, c'est évidemment, on est dans un western des années 40, on est en 48, c'est évidemment mettre en scène la frontière.
La frontière, Pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre en scène la frontière ?
Alors, la frontière, c'est très américain, c'est un mythe formulé par Roosevelt et Turner à la fin du 19e siècle, et c'est un mythe fondateur pour les Américains. Rappelons que les États-Unis sont c'est un pays récent, hein, c'est pas un pays qui a 1000 ou 2000 ans d'histoire comme la France. Ce sont des colons européens qui ont débarqué sur une terre vierge et la civilisation s'est développée d'est en ouest progressivement avec la conquête de l'ouest à la fin du 19e siècle. Quand on dit une terre vierge, c'est sous-entendu une terre vierge de blancs, vierge d'européens. Les Indiens sont associés à la nature sauvage. Et vierge, ça veut dire que c'est non civilisé. C'est une nature dangereuse, hein, c'est la wilderness avec le désert, les serpents à sonnette, le soleil et les Indiens donc. Et cette terre vierge va être progressivement conquise par la civilisation. Et la frontière, ce que les Américains appellent la frontière avec un F majuscule, c'est la confrontation entre la nature sauvage et la civilisation. Donc, dans un film... envoyer des aventuriers, des prospecteurs, des chercheurs d'or dans les montagnes, comme le fait John Huston, c'est les faire se confronter à la frontière. Et sans rien dévoiler du film, il n'y a que deux trajectoires possibles quand on se confronte comme ça à la frontière, deux visions de la frontière. Il y a celle de Roosevelt et celle de Turner. Soit cette confrontation va marquer, va blesser, va contaminer l'homme blanc, qui va ressortir dégénéré à cause de la violence, il va sortir décivilisé, si l'on veut. Ou alors, au contraire, cette confrontation va le régénérer, va le laver de la souillure de la civilisation, de la corruption morale ou philosophique de la civilisation. Donc, c'est deux trajectoires complètement différentes. Et alors, avec le film de Huston, on est servi. On a trois personnages qui ont, on l'a dit, des ressorts dramatiques différents. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Comment vont-ils revenir ? Dans quel état vont-ils revenir ? Voilà l'argument du film. Et juste pour parler un tout petit peu de cette frontière, hein, ce n'est pas seulement réservé aux westerns des années 40 ou 50. Le cinéma américain est encore structuré par cette affaire de frontière. Hein. Pour prendre des films beaucoup plus récents ou des personnages beaucoup plus récents, le personnage de Rambo, par exemple, est absolument un personnage qui est allé à la frontière. Alors, il n'est pas allé dans le désert voir les Indiens, mais il est allé au Vietnam et c'est une espèce de nouvelle frontière pour les Américains. C'est-à-dire qu'il a fait la guerre là-bas, les Indiens, c'est le Viet Cong qu'il a affronté, et quand Rambo revient, on est dans les années 80, il est complètement brisé, il est contaminé par la violence de la frontière, et il n'est plus capable de vivre en société. D'ailleurs, il est rejeté par la société lui-même. Et à l'opposé, dans un film comme Avatar, par exemple, bien c'est le contraire. La civilisation, c'est le mal, la civilisation, c'est la corruption, c'est les industries destructrices, et par contre, la nature, c'est le retour aux sources, on est régénéré, enfin voilà. Donc vous voyez que ces deux trajectoires, l'une où on est dégénéré, l'autre où on est régénéré, c'est ce qui se passe quand on va rencontrer la frontière là-bas.
Merci Pierre. Je vous propose une nouvelle pause musicale. On va se faire plaisir avec tout simplement Gimme Shelter des Rolling Stones. On ne se fait pas seulement plaisir car on reste dans le thème. Scorsese adorait les Stones et a glissé Gimme Shelter dans la BO des Affranchis. C'est parti.
Thank you.
Bien, nous poursuivons notre émission avec l'actualité de KinoZoom. Nous vous avons parlé de deux projections du Ciné-Club de février, mais l'actualité est chargée, puisque le festival se rapproche, n'est-ce pas Pierre ?
Et oui, le festival, il arrive, il se prépare en ce moment. Je vous rappelle que c'est du 17 au 24 mars. On commence un peu plus tôt cette année, puisqu'en fait c'est du dimanche au dimanche, puisque le dimanche il y aura une cérémonie d'ouverture qui répond à la cérémonie de clôture du dimanche 24. Donc le thème c'est « À table ». Et puis, autour de ce thème, eh bien, on va proposer de nombreux films qui traitent de ce sujet. Mais il n'y a pas seulement des films, évidemment. Il y a beaucoup d'invités, il y a des rencontres, il y a des tables rondes, il y a un ciné-concert, comme d'habitude, hein, comme on le fait à chaque fois pour clore le festival. Il y a aussi une compétition de courts-métrages, il y a aussi un programme jeunesse. Donc, beaucoup de choses, vous voyez, pendant cette semaine, qui est un des très, très grands moments culturels de la ville de Fontenay. Un festival, quoi.
C'est ça, Pierre. Et donc, je le répète, hein, du 17 au 24 mars, mais en fait, ça commence dès le mois de février avec un des partenaires du festival, la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Donc, on y intervient assez régulièrement et on propose pas mal d'interventions dans le cadre du festival. Et dès ce mois-ci, des volontaires de la maison d'arrêt vont pouvoir visionner les courts-métrages de la compétition. Un petit peu en avant-première, et participer au prix du public.
Alors, nous reparlerons du festival le mois prochain de toute façon. Et je dois aussi informer nos auditeurs que Rémi s'est bien investi, a même réalisé tout simplement un clip tout récemment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Et bien donc c'est le clip Train Train du chanteur Arnold, donc qui a été réalisé, hein, avec le concours de l'association KinoZoom, et qui est sorti, hein, donc que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, etc. Et donc c'est un clip qui a été tourné en stop motion, hein, en animation, mais avec des objets, des personnes réelles. Donc ça, c'est assez original. Je vous invite à découvrir ce clip. Et on est en train, avec ce même artiste, d'écrire d'autres clips pour certaines de ses chansons et donc de son album à sortir voilà, au printemps.
Il y a aussi des tournages en cours. Qu'en est-il de ton travail dans les ateliers scolaires ?
Et bah, effectivement, ça tourne pas mal en ce moment, notamment au collège Tiraco, où nous tournons l'adaptation d'une nouvelle et où on a lancé le clap de début tout récemment. Et ça tourne également au collège Missy de La Rochelle, dans le cadre là, du festival FestiPrev, qui est un festival de films de prévention, de films réalisés par des jeunes. Et donc là aussi, le tournage a commencé et donc on pourra vous en reparler très bientôt.
Bien, merci pour cette revue d'actualité. On va terminer maintenant avec notre quiz musical. Pierre, c'est pour toi.
Alors oui, notre quiz musical où il s'agit d'essayer de retrouver à la fois un film et son compositeur. La semaine dernière, on vous avait proposé la musique du film Le Clan des Siciliens de Henri Verneuil sur une composition de Ennio Morricone. Alors aujourd'hui, eh bien, on vous lance un nouveau défi. Il faut nous trouver le titre du film et le compositeur. C'est parti. Thank you. Alors, si vous avez identifié le film et le compositeur, eh bien, vous contactez Dig Radio via les réseaux sociaux. Et je rappelle qu'il y a des places de cinéma à gagner. Bonne chance.
Moi, je sais. Alors, Rémi, peux-tu nous rappeler les prochains rendez-vous avant de nous quitter ?
Eh bien, donc, ce sont les dates des films de Ciné-Club. Hein, Raging Bull, les 9 et 12 février, et Le Trésor de la Sierra Madre, le mercredi 21 février à 18h, au cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte.
Et n'oubliez pas d'adhérer à l'association KinoZoom. Hein. Je rappelle qu'il y a un tarif adhérent pour ces séances de Ciné-Club. Vous pouvez adhérer via le site internet de KinoZoom et via la plateforme Hello Asso.
Eh bien, à très bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle émission de CinéZoom. Merci de nous avoir écoutés. Merci Pierre. Merci Rémi.
Merci Françoise.
Merci Françoise. À bientôt.
À bientôt.
Coupé ! Hein ? Elle était bien celle-là.